10h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. Vaccination. Jean-Michel Blanquer a reçu sa première dose du vaccin AstraZeneca. Hier, le ministre de l'Éducation s'est fait vacciner après l'ouverture de créneaux dédiés aux enseignants de plus de 55 ans. Près de 14 millions de Français avaient reçu vendredi au moins une injection. Ils sont plus de 5 millions à avoir reçu les deux. L'objectif d'atteindre les 20 millions de vaccinés à la mi-mai et les 30 millions à la mi-juin est maintenu par l'exécutif. Législation. Le gouvernement va présenter mercredi un nouveau texte contre le terrorisme et ce moins d'une semaine après la mort d'une fonctionnaire de police tuée de deux coups de couteau au commissariat de Rambouillet. Le ministre de l'Intérieur doit le présenter en Conseil des ministres. Il souhaite notamment que la DGSI utilise davantage les algorithmes pour faire des repérages sur Internet. Sensibilisation, le gouvernement va lancer une campagne contre la drogue. Elle devrait débuter avant la fin de l'été selon le Premier ministre et sera placée sous son autorité. Jean Castex estime que les messages de prévention doivent être dépoussiérés. La dernière campagne de ce genre a 30 ans. Diplomatie, les 10 nations de l'ASEAN sont parvenues à un consensus sur un plan en 5 points. Il est notamment en faveur d'une cessation immédiate de la violence en Birmanie. Une situation saluée par le gouvernement fantôme birman. Ce dernier est formé par les députés déchus, démis de leurs fonctions depuis le coup d'état de l'armée le 1er février dernier. En Syrie, 3 personnes sont mortes après l'attaque d'un pétrolier iranien. Il a été la cible d'une attaque hier au large du pays. L'un des réservoirs du bateau a également été touché. C'est la première attaque de ce genre depuis le début de la guerre dans le pays. L'Observatoire syrien des droits de l'homme ne sait pour l'instant pas qui en est à l'origine. Sur Internet, la nouvelle mise à jour d'Apple fait grincer des dents. Lancée demain, elle permettra aux utilisateurs d'être pistés ou non pour chaque application. Une nouveauté qui ne fait pas les affaires du marché de la publicité en ligne.
RVE, le point sur l'actualité locale.
Dans ce flash d'actualité, on revient sur cet événement dramatique de vendredi, l'assassinat d'une fonctionnaire de police. Ce drame a suscité de nombreuses réactions des élus au niveau national, mais également au niveau local, notamment Madame Matillon, maire de Rambouillet, qui indique que la mairie de Rambouillet et son conseil municipal rendront un hommage lundi à 17h30 sur le parvis de l'hôtel de ville à la fonctionnaire de police assassinée dans l'exercice de ses fonctions, en présence de Monsieur Gérard Larcher, président du Sénat, de Madame Hélène Géronimi, sous-préfète de l'arrondissement de Rambouillet, et des autorités. Un registre de condoléances sera mis à disposition dans le hall de l'hôtel de ville. On écoute une brève déclaration de Madame Matillon, maire de Rambouillet, au micro de nos confrères de 78 Actu.
Stéphanie travaillait là depuis des années et voilà, c'est aussi une façon de lui rendre hommage d'avoir participé à cette vie rambouillétaine. Oui, bien sûr, il y a beaucoup d'émotions, mais que nous devons aussi maîtriser et encore une fois, savoir être là et être là dans la durée. Ce qui est important, c'est d'être là dans la durée.
C'était Madame Matillon, maire de Rambouillet, au micro de nos confrères de 78 Actu. Pour sa part, Monsieur Thomas Gourlan, qui est président de la communauté d'agglomération Rambouillet Territoire, a fait la déclaration suivante. Une attaque au couteau au commissariat de police à Rambouillet a fait une victime. Un acte de violence meurtrière qui nous met tous en état de choc. Au nom de l'ensemble des élus de la communauté d'agglomération, je tiens à exprimer toutes mes condoléances à la famille de la victime et tout mon soutien à la police nationale. On écoute maintenant la réaction de la députée de la 10e circonscription des Yvelines, Madame Aurore Berger, interviewée sur l'antenne de BFM.
Vous imaginez l'émotion qui s'est emparée de la commune de Rambouillet, du choc en vérité qui nous submerge. Donc les premiers mots sont évidemment pour les fonctionnaires de police et nos gendarmes. Dire qu'on attend aussi une réponse pénale de manière générale qui soit exemplaire à chaque fois que nos forces de l'ordre sont attaquées, parce qu'à chaque fois que nos forces de l'ordre sont attaquées, c'est la République française qui est attaquée, c'est l'État de droit qui est attaqué. Et je crois qu'il ne faut pas avoir la mémoire courte sur ces questions-là. Et ça me semble essentiel de le rappeler aujourd'hui.
C'était Madame Aurore Berger, députée La République En Marche de la 10e circonscription des Yvelines, au micro de nos confrères de BFM TV. On écoute maintenant la réaction de Madame Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. Elle était interviewée vendredi dans la soirée sur l'antenne de CNews.
On a voulu frapper, là encore, un symbole de la France. Et on a cherché aussi à déstabiliser le pays en venant ici s'attaquer aux forces de police dans cette ville si tranquille du sud rural de l'Île-de-France. Le département des Yvelines a été extrêmement touché La piste terroriste est sérieusement envisagée aujourd'hui. Et on le sait dans les Yvelines, ce que ça veut dire, des attentats terroristes, ça veut dire Magnanville, des policiers qu'on va tuer chez eux. Ça veut dire Samuel Paty, un enseignant qu'on va attendre à la sortie de son collège pour le décapiter. Et donc, face à cette menace qui est encore très très présente sur notre sol, il faut que nous fassions face et il faut une mobilisation sans faille de toutes les forces.
C'était Madame Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, interviewée par nos confrères de CNews. Monsieur Pierre Bédier, le président du conseil départemental des Yvelines, a lui parlé d'une attaque lâche et d'une nouvelle preuve pour la France. Il a ajouté que c'est hélas en Yvelines, encore et à Rambouillet, ville paisible et fraternelle, que l'horreur nous atteint. Nos premières pensées, a-t-il dit, sont pour la victime et sa famille et tous ses collègues, piliers d'un ordre public menacé, parce qu'indispensable à notre nation, notre solidarité n'a d'égal que notre détermination à combattre cette ignominie. Monsieur Gérard Larcher, président du Sénat, était en voyage en Arménie quand il a appris ce drame. Très ému, il a déclaré qu'il avait appris avec effroi l'assassinat d'une fonctionnaire de police du commissariat de Rambouillet. « Cette ville qui m'est si chère, dit-il, je veux exprimer tout mon soutien à la famille de la victime. »
C'est donc après ce point sur l'actualité que nous allons retrouver dans quelques instants le sport avec Tribune Sport évidemment présenté par Philippe Carnus et son équipe. Juste avant, parlons un peu de nos réseaux avec la page Facebook Radio RVE pour rester au plus proche de l'actualité locale ou encore le site radioRVE.com où vous pourrez d'ailleurs retrouver votre émission Tribune Sport en rediffusion et podcast juste après bien sûr. À présent, je vous laisse la parole Philippe.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Effectivement, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce bon week-end du dimanche 25 avril. Alors, on aura encore une émission bien riche et très variée ce matin. On finira cette émission avec notre rendez-vous du golf et notre ami Fabien. Et puis, sinon, parlez pas long ovale ce matin. Avec notre invité, Christian Rieux, Christian que je salue. Bonjour Christian, comment ça va?
Oui, bonjour. Très bien, le ballon ovale apparemment tourne mieux que le ballon rond. Bon,
Effectivement, alors Christian, on va analyser le tournoi 2021 avec un petit mois de décalage. Hein. C'est vrai qu'on va revenir sur ce qui a été notre feuilleton de cet hiver. Première question. On a eu une équipe de France quand même qui nous a donné des émotions. Gagnante ou perdante, elle nous a donné des émotions.
Oui. Cette équipe de France pratique un rugby qui se tient, hein, pour parler un peu à raccourci. Bon, apparemment, on a une pratique de jeu cohérente avec une conquête de qualité. Des joueurs qui s'engagent énormément et une forme de jeu qui correspond au canon moderne et aux exigences du niveau international, ce qui n'était pas le cas précédemment.
Ouais, alors question, c'est quoi, c'est la patte Galtier?
Moi je mettrais un bémol par rapport à Galtier. Il faut refaire un peu l'histoire. Galtier a été performant lorsqu'il était à Montpellier et qu'il était entraîneur avec Éric Béchu. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui connaissent Éric Béchu, mais c'était un prof de gym.
Ce du rugby, oui.
C'était un prof et un joueur de rugby un peu à l'ancienne. Mais qui était très performant dans sa faculté à être un meneur d'hommes. Et Galtier a très bien fonctionné avec Béchu, mais à partir du moment où Béchu a eu des problèmes de santé, l'étoile de Galtier a pâli et il a été même écarté et licencié de Montpellier. Alors, premier accrochage. Ensuite, il est parti à Toulon, devant l'insuffisance des résultats. Bon, il faut appeler un chat un chat. Bougela l'a licencié à son tour. Donc, le passé de Galtier ne plaide pas pour une reconnaissance aussi méritée telle qu'on la présente aujourd'hui. Si l'on continue dans le staff, Elissalde a été écarté du Stade toulousain. Si l'on continue encore, Ibanez a été écarté de l'UBB. Bon, donc, nous avons des entraîneurs qui, apparemment, ont été tous les trois mis sur la touche.
Oui, mais Christian, est-ce qu'on gère une sélection nationale comme on gère un club? On le voit aussi au foot, hein, il y a parfois des...
Ah oui. Là, tout à fait. Bon, apparemment, la sélection nationale ne correspond pas aux mêmes exigences. Mais il faut voir que si on a de très bons résultats, il faut dire aussi qu'il y a eu une modification dans la formation des joueurs. Et nous avons eu les Bleus qui ont été champions du monde. Bon, nous avons une formation de qualité qui arrive aujourd'hui avec beaucoup d'exigences et beaucoup de volonté pour prendre la place des meilleurs.
D'accord. Donc pour vous, c'est plus une génération qu'une méthode d'entraîneur.
Tout à fait. Pour moi, le rugby français. Voilà, le rugby français. Il y a d'abord un problème de génération, un problème de formation. Bon, parce que on se référait au rugby à la française, bon, avec des talents qui pouvaient faire gagner des matchs, mais en fin de compte, bien, pour répondre à des exigences physiques, à des évolutions techniques particulières avec des joueurs très performants physiquement. Bon, donc il y a eu une évolution du jeu au niveau international qui fait que bon, il a fallu qu'on change de point de vue.
Oui, parce que cette équipe de France, on va rappeler, elle avait terminé deuxième du tournoi en 2011 avec Olivier Vraiment. Ensuite, ça a été un long désert hein, où l'équipe de France
excellait en
2017. Donc, où elle avait terminé troisième aussi.
Novès, Saint-André, voilà. Brunel, oui.
Voilà. Et puis là, deux années de suite à la deuxième place, on voit quand même que dans le jeu, même si tout n'est pas parfait, il y a quand même une autre équipe de France que par rapport à ce qu'on a connu
tout à fait.
Même si c'est pas toujours très beau, quoi. Même si c'est pas toujours très beau au niveau du résultat. Parfois, on est battu. Mais en tout cas, on prend du plaisir.
Oui. Bon, l'équipe de France a, s'est rapprochée du public qui l'a bougé, qui s'était un peu éloigné. Bon, malgré les circonstances particulières, du Covid, bon, l'équipe de France a une certaine audience. Et ça, voilà, c'est très bien.
Oui.
Parce que nous sommes appelés à des jours peut-être
encore meilleurs.
Oui.
Voilà.
Avec la Coupe du Monde.
Voilà. Alors, on va justement revenir sur ce tournoi 2021. Ensuite, on dressera un tout petit peu le bilan des deux années gâtées, puis on se reprojettera sur la suite, sur l'avenir. Hein. Alors, ce tournoi, on va quand même rappeler que l'équipe de France l'avait commencé en gagnant 50-10 devant l'Italie. Ensuite, elle est allée gagner en Irlande 15-13. Donc, ça a été vraiment un match d'homme. Malheureusement, elle s'incline en finissant peut-être un tout petit peu plus mal que l'Angleterre, 23-20, face aux Anglais. Elle renverse de façon miraculeuse hein, et assez exceptionnelle la situation contre le Pays de Galles, 32-30, on aura tous en mémoire ce final de l'équipe de France. Et puis elle perd, là aussi, dans son final contre l'Écosse, 23-27. Hein, on ne veut pas incriminer Dylan, mais bon, Dylan n'a pas la sérénité en fin de match. Donc finalement, on a vu que tous les matchs ont été très très serrés quand même.
Oui. De toute façon, les matchs seront de plus en plus... Bon, mis à part l'Italie, hein, parce que l'Italie, il faut voir que maintenant, c'est une équipe de deuxième division. Mais les autres équipes se tiennent. Il n'y a pas de match facile.
Oui, parce qu'on va regarder hein, également pour les autres principaux matchs de ce tournoi. Ça s'est joué pour beaucoup à pas plus de 5 points. Hein. L'Écosse qui va gagner en Angleterre 11-6. Le Pays de Galles qui bat l'Irlande 21-16. La victoire aussi donc du Pays de Galles en Écosse d'un tout petit point 25-24. Et puis l'Irlande qui va gagner de 3 points en Écosse 27-24. Donc ça prouve qu'on a eu peut-être cette année un tournoi relevé de très haut niveau où les équipes finalement se valaient de pas grand chose, quoi.
Oui, exactement. Donc nous avons tenu notre rang hein, et nous rejouons à notre niveau parce que bon, on fait partie quand même des 5 meilleures nations de rugby mondial. Hein.
Voilà, donc le tournoi, donc le classement définitif, bah, c'est le Pays de Galles qui l'emporte avec 20 points. Deuxième, la France, 16 points, donc on l'a dit, hein, deuxième en 2020, oui. Deuxième en 2021, c'est la meilleure performance depuis 2011, où l'équipe de France a aussi terminé à cette même place. Troisième, l'Irlande, donc 15 points, mais un goulavrage de plus 48. Quatrième, l'Écosse, 15 points, un goulavrage de plus 47. Cinquième, l'Angleterre, 10 points. Et sixième, donc on l'a dit, l'équipe qui est largement donc d'un niveau en dessous d'Italie, 0 points qui erre de bois. Finalement, c'est presque un tournoi identique à celui de l'année dernière. Si c'est que les Anglais terminent cinquième, ils sont très décevants cette année. Et les pays et les Gallois qui avaient été un petit peu en dedans l'année dernière, bah, gagnent ce tournoi. On les attendait peut-être pas à ce niveau aussi rapidement.
Oui, on n'attendait pas les Gallois à ce niveau, mais il faut dire, ça a été la faillite de l'équipe d'Angleterre, hein, parce que qui a sombré complètement.
Oui. Comment on n'arrive pas, et pour autant, on n'arrive pas à les battre, si on n'a pas battu, hein, on a eu un peu de mal dans le final contre les Anglais, peut-être parce qu'on n'avait pas fait de match depuis un mois à cause du Covid, mais on n'arrive pas à battre les Anglais quand même. Hein,
oui, mais contre les Anglais, on a toujours du mal. Hein, ce sont nos ennemis héréditaires, et il faut voir que lorsqu'on joue contre eux, c'est le combat à la mort, hein, comme on dit. Ah, Florida. Bon, c'est toujours délicat de jouer contre l'Angleterre.
Et la performance des Français, donc, contre les Gallois, qui inversent la tendance, qui vont gagner aussi à nouveau en Irlande, qui inverse la tendance, ça c'est plutôt bon signe. On sait que ces dernières années, les Gallois l'ont porté plutôt favorablement face aux Français.
Oui, mais il faut pouvoir revenir à notre avant-propos. Nous avons des joueurs de qualité. Si on les prend individuellement, tous les joueurs auraient leur place dans les meilleures équipes du monde. Quand on voit Dupont, Wakatawa, Olivon, etc., tous sont très performants. Alors, le problème, c'est qu'il faut les faire évoluer ensemble. Hein.
Voilà. Et puis on sent que cette équipe de France, elle a quand même un mental, parce que comme on l'a dit, elle est allée gagner au finish contre le Pays de Galles. Bon, il va manquer ce petit coup de mental contre l'Angleterre. Peut-être aussi un peu de sérénité en fin de match contre l'Écosse. Par contre, elle est allée aussi gagner donc au mental en Irlande. Donc, c'est vrai, la précédente génération n'avait peut-être pas, Christian.
Oui, tout à fait. Oui. C'est sûr que nous avons... des possibilités, parce que en plus, il faut dire que l'équipe de France est constituée de joueurs jeunes, donc à devenir, donc on devrait pouvoir faire une bonne Coupe du Monde, peut-être pas gagner, hein, parce qu'on s'enflamme vite aussi. Hein.
Mais si, Christian, on va la gagner, c'est tout le monde chez nous.
Alors, c'est Pierre Perret hein, qui disait « le bonheur est toujours pour demain ».
Voilà, c'est ça. Alors effectivement, cette équipe de France, hein, on avait déjà vu que l'année dernière, elle était en très gros progrès. Ensuite, elle avait enchaîné la Coupe d'automne où elle avait été aussi battue en finale par l'Angleterre 22-19 après prolongation, mais elle avait aussi battu l'Italie 36-5. Elle avait été gagnée en Écosse 22-15. Elle avait battu le Pays de Galles assez facilement en début de saison en match amical 38-21. Ça veut dire que cette équipe de France, elle a pratiquement battu maintenant toutes les grosses nations, sauf l'Angleterre et les équipes de l'hémisphère sud.
Oui, voilà. L'épreuve de vérité sera avec les nations du Sud. Hein.
Mmh. Bon, oui, alors c'est justement l'Australie au mois de juin. Ce qui lui manque maintenant, c'est aller justement maintenant défier les nations de l'hémisphère sud pour progresser encore un peu plus dans sa marge en avant pour la Coupe du Monde 2023.
Mais oui, parce que si l'on observe bien les les anglo-saxons, hein, il faut voir qu'il y a pas une baisse de régime, mais qu'il y a certaines difficultés. Hein. Il y a des joueurs vieillissants, si on prend Sexton, Winnie Pola, seconde ligne gallois. Bon, il y a un vieillissement et donc ça influe sur la performance. Et ils en observent bien, les joueurs du tournoi des destinations n'ont pas été aussi top qu'il y a quelques années.
Alors, Christian Simon, qui a cette équipe de France maintenant pour progresser, c'est peut-être aussi de faire un peu moins de fautes. Ça va être ça, sa marge de progression. Ça va être ça qui va peut-être lui faire permettre de gagner le tournoi en 2022 et puis la Coupe du Monde en 2023. Un peu moins de fautes.
Oui, et puis un peu plus de sérénité, hein. Bon, de travail.
Par moment.
Oui, par moment, il faut tenir le jeu et les points. Hein. Bon, oui. C'est pour ça que aujourd'hui, avec le type de jeu pratiqué, où les défenses sont très performantes, la moindre faute peut être irrémédiable.
C'est pour ça que le match se joue sur. C'est pour ça que le match se joue vraiment sur quelques points.
Il se joue sur peu de choses. Hein. Donc, il faut continuer à être de plus en plus performant et avec des joueurs qui considèrent le collectif comme essentiel et pas une performance
individuelle. Voilà. On marque une petite pause et puis on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission consacrée ce matin donc au ballon. On y va.
Bâtipro France, les compagnons maçons de Rambouillet, votre partenaire pour les projets neufs ou de rénovation, petits ou gros œuvres. Bâtipro France est votre spécialiste pour la réalisation de tous vos travaux, de maçonnerie générale, pavillon individuel, toiture, fenêtre, carrelage et l'installation de votre portail. Pour des réalisations de qualité qui bénéficient de la garantie décennale et forte d'une expérience de 20 ans, confiez-nous vos projets en toute sérénité. Vous avez un projet? Appelez Bâtipro France, les compagnons maçons de Rambouillet. Devis gratuit au 01 30 88 97 54 et sur bâtipro-france.com.
Et maintenant, une demi-heure sans pub.
Une demi-heure sans pub sur RVE.
There's a boy across the street. He's just trying to find his way. Coming over to my house. I see him every day. His mom and dad are busy. They never have the time to listen to his feelings. What's playing on his mind?
Yeah. Encouragez le sport dans votre région avec RVE.
Allez, deuxième partie de cette émission ce matin consacrée au ballon ovale. Hein. On retrouvera ensuite notre ami Fabien pour le match du golf, un sport qu'aime bien également notre ami Christian Rieu, invité ce matin. Alors Christian Galtier, quand on a fait un petit peu le bilan de sa prise de pouvoir, c'est 14 matchs, 10 victoires, 4 défaites.
Oui. Non, mais le bilan est positif. Hein. Bon, il y a des progrès certains, mais de là à être champion du monde, ce sera une autre histoire.
Oui, bah, c'est pourtant l'objectif. Bon, on sait que
oui, c'est l'objectif.
On sait que le tournoi. On sait que le tournoi, c'est quand même une institution donc dans le monde du ballon ovale. Hein. C'est ni plus ni moins maintenant l'officiel championnat d'Europe, mais la marche supplémentaire, c'est quand même d'être champion du monde. Et si plus est, en France, Christian, on a joué 3 finales de Coupe du Monde qu'on a perdu. Les footballeurs ont été champions du monde, les handballeurs ont été champions du monde. Pourquoi les rugbyman ne le seraient pas?
Et oui, et nous, jamais, on a eu jamais ce plaisir. Donc, voilà.
En France.
Donc, c'est l'objectif bien défini.
Oui, en plus, ce serait quand même une énorme retombée pour tous nos clubs, hein, parce que on a vu qu'après le Mondial 2007 organisé en France, il y avait eu une embellie pour le rugby qui était malheureusement retombée avec les mauvais résultats et donc la traversée du désert donc qu'on avait vécu entre 2011 et 2019. Ça pourrait redonner un essor, ça pourrait redonner un boom à ce sport.
Oui. Oui, parce que le rugby est vraiment en difficulté. Bon, outre l'aspect économique, hein, il y a de nombreux clubs qui sont à la limite là, de la rupture. Mais il faut voir qu'il y a dans l'évolution du jeu par des joueurs surpuissants, de nombreuses commotions qui sont vraiment spectaculaires et pratiquement à tous les matchs. Et les parents rechignent à envoyer les enfants dans les écoles de rugby.
Oui, c'est un sport qui a beaucoup évolué, qui est devenu beaucoup plus physique aujourd'hui que par le passé, à tous les niveaux, même au niveau amateur.
Oui, c'est un sport qui est devenu hyper violent. Et certains joueurs, Guirado par exemple, a dit que c'est un sport qui peut être dangereux. Le joueur ne sait pas s'il va finir le match et s'il va rentrer avec une blessure grave.
Hein. Oui, parce que
l'engagement ne fait que s'accentuer et les joueurs sont surpuissants, comme on dit. Hein. Donc, et les arbitrages souvent sous prétexte de ne pas couper le match, ne siffle pas les fautes, certaines fautes, alors bon, ça amène des dégâts. Hein.
Oui, et puis aussi, c'est parce que le rugby, Christian, il s'est professionnalisé. Aujourd'hui, oui, on a amélioré les doses d'entraînement, que ce soit dans le rugby pro ou même le rugby amateur. Donc, naturellement, qui dit qu'on a aujourd'hui amélioré les doses d'entraînement, on a des joueurs plus athlétiques, des joueurs plus physiques. On a aujourd'hui des troisièmes lignes qui courent aussi vite que des trois quarts, pratiquement.
Oui, alors moi je dirais, hein, tous les joueurs de rugby d'une équipe sont des troisièmes lignes. Parce qu'on voit des piliers qui font 20, 25, 26 plaquages dans un match, des secondes lignes qui jouent comme des troisièmes lignes, un demi de mêlée Dupont, il joue le jeu d'une troisième ligne, hein. C'est pas la d'annonce ou l'ancien type de demi de mêlée. Tous les joueurs peuvent jouer troisième ligne.
Ouais, ouais. Donc, et puis aussi, on voit aujourd'hui, un rugby avec une énorme défense. Hein. On a renforcé la défense. Il y a beaucoup moins d'espace dans le jeu. Hein. Quand on voit les images des tournois des années 70, 80, on voit aujourd'hui beaucoup moins d'espace dans le jeu que durant ces années. C'est pareil pour tous les sports. Hein.
Oui, mais alors, c'est pour ça qu'il y a une évolution du jeu et le jeu au pied prend beaucoup d'importance parce qu'on ne peut plus passer. Les défenses sont imperméables, donc il faut jouer au pied. Donc, coup de pied d'occupation, coup de pied de pression, et puis, bien sûr, coup de pied de réparation. Il faut avoir un buteur très performant pour pouvoir
gagner des matchs.
Ouais, c'est combien? C'est 50% d'équipe, un buteur. On s'appelle de
buteur, des fois 70% des Anglais, des fois.
Voilà. Et puis, il faut des joueurs au pied qui soient susceptibles d'occuper le terrain par de longs coups de pied précis, bien sûr.
Et puis, la formation des jeunes, elle est fatalement différente, Christian, aujourd'hui. Oui. Quand on commence le rugby, qu'on rentre dans des clubs pépinières, c'est fatalement pour faire une grande carrière, c'est tout simplement pour s'amuser, quoi.
Oui, oui, moi je me souviens, hein, puisque, bon, j'ai d'abord commencé par le rugby, puisque j'ai joué à Saint-Jean qui était en National 1, bon, nous, c'était, on joue au rugby pour s'amuser, hein. Et puis, bon, il y en avait quelques-uns qui étaient plus rapides ou plus guerriers les uns que les autres et qui gagnaient leur place dans les équipes premières.
Hein. Est-ce que l'arbitrage a beaucoup évolué aussi, Christian, pour...
Alors, moi, je pense que l'arbitrage est en difficulté. Ah. Déjà, avec ces VAR qui sont... utilisé des fois à mauvais escient, hein, parce que qui viennent couper le jeu sans arrêt, il y a des pertes de temps énormes. Et puis deuxième temps, les arbitres semblent se reposer sur l'arbitrage assisté et on ne voit pas des fautes flagrantes sifflées. Et je dirais des fautes flagrantes, ce sont des fautes qui viennent déranger le jeu. Je prends un exemple très simple. Lorsque la règle dit, lorsqu'un joueur est plaqué au sol, il doit lâcher le ballon. Est-ce qu'on voit, même au niveau international, des joueurs plaqués lâcher le ballon? Non, ils se débrouillent pour le garder, se retourner, etc., en l'ayant en main, pour retarder le jeu.
Ouais, mais Christian, si on n'a pas la VAR dans le rugby, ça peut être compliqué. On l'a vu cette année dans le tournoi, il y a eu 2-3 essais qui ont été accordés de façon litigieuse. Hein. On sait, est-ce que le ballon a véritablement touché le gazon? Est-ce qu'il y avait une main en dessous?
Il y a
peut-être un petit peu d'air, mais puis un petit peu la main. Voilà.
Oui, mais Philippe, ça devient tellement compliqué qu'on ne pourra plus... parce que les joueurs, ils sont malins. Hein, ils se mettent entre la caméra caméra et le ballon. Ils mettent les mains, les pieds dessous, bon, etc. Il faudra faire évoluer la règle. Comme le jeu américain, lorsqu'on franchit la ligne, il y a essai.
Alors, est-ce que finalement, l'avenir, c'est bon aussi une gold line? C'est-à-dire, dès que ça sonne, eh ben, le ballon a touché en vue. Voilà,
il faut que la règle évolue.
Ah oui.
Sinon, on va vers des complications à n'en plus finir.
On voit quand même que les joueurs contestent moins quand même. Même certains ne sont pas toujours d'accord avec la décision de l'arbitre. Il y a une culture rugby qu'on accepte quand même, même la justice y a.
Oui. Il y a une certaine retenue, disons, au rugby, mais ça, certains matchs, et en particulier en Pro D2, où c'est des professionnels, on voit qu'il y a des contestations et que ça discute et ça prend un peu le chemin du foot.
Oui. Alors justement, on reviendra la semaine prochaine dans tribune sur le fiasco de cette Super League en foot. Est-ce qu'en rugby, un jour, ça peut arriver, ça?
Ben, évidemment, hein, c'est déjà sur les tablettes. Mais quand on voit déjà cette saison, avec l'arrivée de Bouscatel à la présidence de la Ligue, on autorise un joueur supplémentaire jusqu'à fin avril et un joueur remplaçant pour raison médicale. Donc, et certains joueurs, on a vu le cas Ficou, hein, qui jouait au Stade français, va jouer au Racing et peut-être contre le Stade français. Bon, on voit un joueur, Picamol de Montpellier, qui va jouer à l'UBB à Bordeaux en cours de saison. Bon, donc c'est
le rugby va perdre tout son sens parce que pour une question d'argent, de transfert, de bon, etc. Hein. Oui. Alors justement, la formule de Coupe d'Europe, hein, on va quand même rappeler que le week-end prochain, il y aura 3 équipes françaises sur 4 qui seront en demi-finale, hein, Toulouse contre Bordeaux-Bègles et La Rochelle contre l'Ulster. Cette Coupe d'Europe, ça, elle était nécessaire pour le rugby. On sait que Toulouse en a gagné 4, Toulon, on a gagné 3, Brive en a gagné 1. Ça a donné quand même une dimension plus professionnelle à ce sport. Est-ce que c'était nécessaire, cette Coupe d'Europe, depuis 1996?
Mais c'est toujours nécessaire. Hein. Bon, ça permet de se frotter aux autres nations. Bon, et puis, bon, il y a le leadership. Bon, c'est toujours valorisant d'avoir d'être le meilleur d'Europe. Hein, bon.
Donc, ce ne sont pas des compétitions un peu dévaluées quand même, Christian, parce que entre les Anglais, qui ont quand même dominé largement ces Coupes d'Europe, et les Irlandais et un peu les Français, voilà, ça change pas beaucoup, quoi.
Oui, mais le problème, Philippe, je pense que le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il y a trop de matchs. Entre les matchs internationaux, les matchs de Coupe d'Europe, les championnats, bon, les tournées, bon, etc., on se demande comment les joueurs font pour tenir la route. Hein.
C'est tous les sports pareils. Hein. On voit même certaines donc, journées de championnat pendant les matchs de l'équipe de France dans le tournoi de destination, ce qui est quand même question inconcevable dans les autres sports. Quoi, hein.
Oui. Alors, c'est pour ça toujours, pour une question économique, de fric, de puissance, de feu hein, pour les clubs, c'est toujours essayer de solliciter davantage les joueurs. Voilà.
Bon, on va quand même la gagner, la Coupe d'Europe, cette année. On en a beaucoup perdu ces dernières années, finale. Hein. Est-ce que cette année, on va renouer après les bons résultats
Il faudrait.
Avec une grande Coupe d'Europe.
Oui, moi, je pense que la fenêtre est. Il y a une fenêtre de tir, hein, comme on dit. Parce que les nations qui étaient performantes, anglais, irlandais et gallois, sont vieillissantes, les nations, ou vieillissant les joueurs, et donc nous avons une chance inouïe d'avoir une génération talentueuse et jeune.
Oui. Bordeaux-Bègles, ça reste votre équipe favorite. Je ne devrais pas dire ça, vous, l'homme de Toulouse, Christian.
Oui, eh bien, moi, je... oui, tout à fait. Et avec des copains, j'ai fait des paris, nous avons fait des paris. Bon, moi, c'est Bordeaux-Bègles parce qu'il me semble qu'il pratique le jeu le plus efficace. Mmh. Bon, et le Stade Toulousain, c'est un peu... bon, c'est un peu la baballe. Alors, quand ils avancent, quand l'équipe domine l'adversaire, bon, ils sont performants. Et quand ils sont en difficulté, comme avec les Irlandais, bon, ça se complique sérieusement. Alors, le point d'interrogation, c'est La Rochelle, qui a un pack monstrueux.
Oui.
Ils ont des joueurs à 8 de devant énormes et qui peuvent renverser tous les pronostics.
Bon, eh ben on verra ça. Vous savez que c'est déjà arrivé qu'on ait eu 3 clubs français en 2019 certaines années et qu'on n'ait pas gagné la Coupe d'Europe.
Mais oui, tout à fait. Arrivé, hein. Alors, le problème, il faudrait qu'un club français gagne la Coupe d'Europe quand même.
Voilà, effectivement. Donc, ce sera la finale le 22 mai, Christian. Pour finir, cette année, le top 14 ira donc à son terme. Hein. On n'aura pas une saison annulée comme l'année dernière. On aura bien un Brooksy de Brennus qui sera remis au mois de juin pendant l'Euro.
Oui, mais ça sera quand même chaotique hein, parce qu'il y avait tous ces reports, ces problèmes sanitaires. Bon, ça sera quand même... un championnat un peu évalué.
Perturbé.
Ouais, ouais. Oui, perturbé. Ouais, quand on voit Toulon, quand on voit de nombreuses équipes qui sont handicapées énormément, ça pose problème.
Bah écoutez, Christian, merci d'être intervenu ce matin, d'avoir fait le bilan de ce tournoi 2021, comme vous l'avez dit, au mois de novembre. Pour le tournoi 2020. À très bientôt donc pour la fin de saison rugby, puis aussi pour le tennis, hein, pour Roland Garros. Hein,
ça approche avec une semaine de retard.
Voilà, très bien.
Les Français, apparemment, ne sont pas au top.
Non, bah, comme très souvent, malheureusement. Voilà. Allez, merci, Christian. Merci. La deuxième coupure, et ensuite, on va aller rejoindre notre ami Fabien pour parler golf.
Vivez le sport dans votre région avec RVE.
When I was 6 years old, I broke my leg. I was running from my brother and his friends. And tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart. Broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. Smoking and rolled cigarettes. Running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs and when we got paid. Buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown. But I can't wait to go home. Sell clothes. One works down by the coast. One had two kids but lives alone. One's brother overdosed. One's already on his second wife. One's just barely getting by. But these people raised me and I can't wait to go home. And I'm on my own. Still remember these old country lanes when we did not know the answers, and I miss the way you make me feel. It's real when we watch the sunset over the castle on the hill.
et électricité, entreprise familiale depuis 1981, est votre spécialiste dans les Yvelines pour tous vos travaux électriques. Création et rénovation chez les particuliers comme les professionnels. Nous vous proposons également l'installation d'interphones, de vidéosurveillance et de détecteurs incendie. Brifo Électricité assure l'installation et la gestion de votre chauffage électrique. Votre satisfaction est aussi la nôtre. Devis gratuit, dépannage rapide. Informations et réservations au 01 30 46 11 56 ou sur notre site brifo-électricité.com.
Et maintenant, retour des hits sur RVE.
Cette émission au Tribune Sport que vous pourrez naturellement écouter en podcast, eh bien avec notre rendez-vous mensuel traditionnel du golf, on reçoit notre ami Fabien comme chaque fin de mois. Fabien, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Alors Fabien, il s'est passé un énorme événement durant ce mois de golf. C'est la victoire d'un Japonais, Hideyoshi Matsuyama, comme vainqueur du Masters à Augusta. Ça, c'est une grande première dans le monde du golf.
Bah, c'est un tremblement de terre, hein, c'est un tsunami. Ouais, ouais. Alors je fais un parallèle, parce que malheureusement c'est un pays qui est un peu sujet à ce genre de ce genre d'événement climatique. Mais oui, c'est en fait ce qu'il faut savoir pour remettre dans le contexte, c'est que le Japon est certainement, donc l'Asie en général, mais le Japon, le deuxième pays qui joue et qui a pour passion le golf, et donc ils attendent ça depuis la création du Masters. Et voilà, d'accord, c'est enfin arrivé. Et oui, et ça fait du bien parce que ça amène autre chose, une autre culture. Ça développe, ça a éclairé aussi un continent d'une autre façon. Donc non, c'est cool. Vivement qu'un Français gagne.
Et oui, justement. Alors, auparavant, avant de parler de ce qui se passe au niveau des Jeux Olympiques au Japon en matière de golf, je suppose Fabien, que ça a eu un énorme retentissement, cette victoire japonaise au Masters de golf.
Alors oui. Alors ça a eu, dans son pays. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que déjà c'était une star. Hein, mais là, c'est même pas une superstar, c'est même pas une superstar. C'est-à-dire que s'il était en Angleterre, il l'aurait déjà anobli et il aurait Sir devant son nom. Hein. Voilà, aujourd'hui, c'est le premier golfeur japonais à gagner le Masters, à gagner un tournoi du Grand Chelem. C'est colossal ce qu'il a fait. C'est colossal et ça permet aussi, ça ouvre un autre pays, ça ouvre un autre.
Oui.
Les Jeux Olympiques, comme vous venez de le dire. Voilà, qui arrive rapidement avec du golf. Enfin, d'une manière générale, le golf est plutôt bankable, a plutôt le vent en poupe en ce moment.
Mmh. Et puis, il a aussi gagné une belle veste verte. Hein.
Oui, alors celle-là, je ne sais pas si c'est la plus fashion, mais par contre, c'est la plus courue, ouais.
Ouais, ouais, non, parce qu'on va rappeler que c'est une tradition. Tous les vainqueurs des Masters, d'Augusta, remportent une veste verte. Hein. C'est le symbole de la victoire.
Alors il remporte exactement deux choses. Il remporte le clubhouse en réplique, hein, qui est le trophée, et cette fameuse veste verte qui est toujours remise par le vainqueur de l'année précédente.
Voilà.
Alors aux États-Unis, c'est toujours bien orchestré, hein, c'est la télé, mais cette veste, elle est mythique.
Ouais, oui. Alors justement, on l'a dit, les Jeux Olympiques, c'est maintenant dans moins de 100 jours au Japon. Il y aura naturellement des épreuves de golf. Comment vous les voyez, ces épreuves de golf? On peut justement jouer les troubles faits, nous Français, qui n'avons jamais obtenu de médaille aux Jeux Olympiques en golf.
Alors, spontanément, je dirais oui, ouais. Parce que on a cette capacité à avoir le French flair, hein, donc on l'a au rugby. On est fort quand même dans beaucoup de disciplines. Et pourquoi pas un Français qui viendrait tirer de son épingle du jeu. Cette année, il y en a un qui a gagné sur le circuit européen. Il y en a un autre qui fait partie des 30 meilleurs joueurs du monde, qui est Victor Pérez. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, j'y crois en tout cas.
Oui, et chez les femmes aussi, c'est possible?
Alors, chez les femmes, il y a de vraies, il y a des valeurs sûres. Il y a Céline Boutier, il y a Perrine Delacour. Qui toutes les deux qui jouent très très bien sur le circuit mondial, et c'est le circuit américain, hein, qui est le circuit majeur. Non, ça va être magnifique. Le parcours est sublime. Encore une fois, ils surfent sur cette victoire sur le Masters. Ça va être très très chouette et je pense très médiatisé.
Oui, bien sûr. Imaginez, Fabien, qu'on ait une médaille au golf, ce serait encore un boom encore plus important pour votre sport.
Alors, bien sûr. On l'a dit, hein, on le dit depuis 9 mois quasiment, hein, Philippe, que on ne sait pas si c'est grâce ou à cause que le Covid a rendu le golf à la mode, a rendu le golf plus accessible, a rendu le golf plus sexy, plus fun, plus cool, et que la cerise sur le gâteau, évidemment, est ce qui nous manque cruellement en France, plutôt chez les garçons d'ailleurs, parce que chez les filles, on a déjà gagné des majeurs, hein. Ça serait une victoire retentissante, mondiale, sur laquelle on pourrait construire, tout à fait. Et évidemment, je suis d'accord, ça boosterait encore plus.
Ouais. Alors justement, comment vit-on actuellement ce troisième confinement? On en a parlé un peu le mois dernier, mais comment vit-on ce troisième confinement dans le milieu du golf? Bon, on peut quand même pratiquer ce sport en plein air, ça c'est la force de cette discipline.
Ah, j'allais dire, ouais. Je ne sais pas si j'ai pas presque honte de dire ça, mais j'allais dire qu'on le vit bien. On le vit bien parce que voilà, parce que encore une fois, c'est à l'air libre. La distanciation sociale est naturelle. On n'est pas obligé de porter un masque quand on joue, évidemment, au clubhouse, quand on arrive pour aller aux practices, pour aller au départ du 1, mais après, voilà, on est jamais les uns sur les autres. Donc toutes ces vertus font que ça se pratique en plein air et que effectivement. On le vit plutôt très bien. Il y a eu les 10 km, maintenant les 30 km. À partir du 3 mai, il n'y aura plus de restrictions kilométriques. Donc, c'est plutôt chouette. Moi, j'ai une pensée quand même pour tous ces sports qui sont magnifiques, ces sports en salle, ces associations, ces clubs, ces bénévoles, tous ces gens qui gravitent et qui doivent être bien malheureux de ne pas pouvoir pratiquer leur sport. Nous, on a cette chance.
Oui, alors justement, vous l'avez dit Fabien, il va y avoir l'élevé des 10 km dès pratiquement la semaine prochaine, dès le 3 mai. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'excuses pour ne pas aller pratiquer ce sport. Il commence à faire beau, c'est le printemps, donc maintenant il faut y aller sur les greens, il ne faut pas hésiter.
Ah non, mais il faut courir Philippe, oui. Il faut courir pour y aller. Il faut courir, évidemment, c'est un sport qui est magnifique. Outre les vertus naturelles qu'il propose en période de Covid, c'est que c'est surtout... un sport, un loisir qu'on peut pratiquer en famille, seul, entre potes, avec son patron, avec ses collaborateurs. Le golf, c'est le plus beau sport du monde.
Alors Fabien, justement, quelqu'un qui n'aurait pas pratiqué ce sport depuis plusieurs mois à cause de l'hiver, à cause du confinement, comment faut-il qu'il fasse pour s'y remettre tout doucement ou il peut repartir plein pot?
Il peut repartir comme en 40, ouais, exactement. Ouais. Voilà, il vient, nous chez YouGolf, on a 58 structures en France où on accueille évidemment toutes les personnes gratuitement avec des initiations, mais d'un point de vue général, parce que ce qui est important, c'est que le monde du golf se développe, et évidemment nous, mais tous les acteurs, qu'il faut remercier, la filière golf a été exemplaire. Ouais. Donc, il faut aller voir tous les golfs, il faut se mettre au golf. Vous verrez, c'est vraiment accessible. C'est pas aussi cher du tout qu'on pense. C'est pas aussi, aussi coincé, aussi. Non, c'est super cool. C'est super accessible. On rencontre vraiment des gens top. Donc, oui, courez jouer au golf.
Oui, et puis pour finir, avec des prix, comme vous l'avez dit, aménagés. Hein, on a fait des efforts dans les golfs pour justement compenser un peu le manque à gagner financier de l'année dernière.
Exactement. Si vous me permettez, par exemple, chez YouGolf, pour démarrer, à partir de 70 euros par mois, vous avez des cours à volonté, donc un cours collectif tous les jours, l'accès au parcours tout de suite, parce que quand on débute, on va tout de suite sur le parcours. Et en plus, on vous offre un kit avec un sac et des clubs. Donc, il n'y a plus d'excuses. Il faut vraiment courir jouer au golf.
Absolument. Merci Fabien, en tout cas. Bonne fin de week-end. Et puis, on se retrouve fin mai pour un autre rendez-vous golf. Mais merci en
merci
tout cas.
Merci Philippe, merci à tous. Au revoir.
Voilà, et puis cette émission donc se termine. La semaine prochaine, on retrouvera Tribune Foot. Et puis je voudrais remercier donc Damien d'avoir été une nouvelle fois aux manettes ce matin. Bon dimanche à toutes et à tous. Et puis on vous laisse avec la suite de nos programmes en ce dimanche 25 avril. Salut, bon dimanche.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport avec Philippe Carnu. Il est 11h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. Vaccination. Jean-Michel Blanquer a reçu sa première dose du vaccin AstraZeneca. Hier, le ministre de l'Éducation s'est fait vacciner après l'ouverture de créneaux dédiés aux enseignants de plus de 55 ans. Près de 14 millions de Français avaient reçu vendredi au moins une injection. Ils sont plus de 5 millions à avoir reçu les deux. L'objectif d'atteindre les 20 millions de vaccinés à la mi-mai et les 30 millions à la mi-juin est maintenu par l'exécutif. Législation. Le gouvernement va présenter mercredi un nouveau texte contre le terrorisme et ce moins d'une semaine après la mort d'une fonctionnaire de police tuée de deux coups de couteau au commissariat de Rambouillet. Le ministre de l'Intérieur doit le présenter en Conseil des ministres.